réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec France Culture et avec Un autre jour est possible. Nous sommes le mercredi 4 mai 2016. Depuis lundi, nous sommes avec l'historien Michel Pierre qui nous raconte le Sahara, une traversée du Sahara. Aujourd'hui, troisième épisode, le Sahara dans la guerre d'Algérie. Et puis, en deuxième partie, on parlera de la mémoire, en compagnie de la vidéaste, cinéaste Nurit Aviv, à l'occasion de la sortie en DVD de Poétique du cerveau.
Une traversée du Sahara avec Michel Pierre.
Une traversée du Sahara en compagnie de Michel Pierre, historien, qui a publié récemment aux éditions Belin Le Grand Récit du Sahara. Et aujourd'hui, on va parler du Sahara d'après-guerre. Qu'est-ce qui va se passer dans cette période précise, Michel Pierre ?
Il y a le Sahara aussi pendant la guerre, pas seulement d'après-guerre, puisque la guerre de Libye a été un moment non négligeable de la Seconde Guerre mondiale et qui va faire rentrer, puisqu'on parlait hier d'imaginaire, qui va faire rentrer deux noms importants dans l'histoire de France et dans l'imaginaire des Français par rapport à cette guerre qu'on a dit aussi guerre des sables, guerre de Libye, qui sont la prise de Koufra par les troupes du général Leclerc, et puis Birakem, qui est une défense assurée par des Français face à l'Afrika Korps et à l'armée italienne. Donc bien plus tard, quand vous avez un film qu'on voit encore régulièrement à la télévision, qui est Un taxi pour Tobrouk, vous avez donc cette longue mémoire qui est encore présente. Mais ce qui va compter après cette Seconde Guerre mondiale, c'est que le Sahara bien va donner ce qu'on n'imaginait même pas, c'est se révéler avec toutes ces richesses en hydrocarbures qui ont longtemps paru presque impossibles. Hein. J'ai retrouvé par exemple un article de revue américaine qui est encore dans les années 1950, une revue spécialisée dans les hydrocarbures qui considérait que les chances de trouver du pétrole au Sahara, français en particulier, étaient extrêmement réduites. Mais c'est quand même ce qui se passe en 1956 dans le Sahara français et en 1959 dans le Sahara libyen. Donc à ce moment-là, ces espaces du désert deviennent un enjeu stratégique tout à fait autre.
Et cela en pleine guerre d'Algérie. C'est-à-dire que déjà le processus de décolonisation est enclenché.
Oui, parce que la guerre commence à l'automne 1954 et ça fait déjà 2 ans qu'elle a commencé lorsque les grandes découvertes commencent à être faites par la France. Et ce qui fait que ces richesses qui apparaissent en ce moment-là extrêmement importantes pour l'économie française vont être l'un des enjeux de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que on voit très bien, et en particulier à partir du moment où le général de Gaulle revient au pouvoir en 1958, que il peut être ou il est dans quelque chose qui dans son esprit accepte l'indépendance de l'Algérie, mais qui considère que le Sahara on peut en quelque sorte l'Algérie du Nord envisager son indépendance éventuellement avec le Sahara, comme le FLN le demande, hein, le congrès de la Soumam du FLN et de la guerre d'indépendance implique bien que le Sahara qui doit être indépendant est celui qui est dans les frontières coloniales. Le problème du Sahara, dans la discussion entre De Gaulle et le gouvernement provisoire algérien, c'est que De Gaulle tient à trois choses. D'abord, quand même, les hydrocarbures contrôlés, développés, découverts par les Français, il faut en garder une forme de bénéfice économique. Et surtout, deux choses encore plus importantes, c'est que le Sahara français est le lieu où l'on fait les expériences nucléaires. Et pour le général de Gaulle, l'accès de la France à la bomba est quelque chose d'absolument fondamental. C'est dans sa vision du monde, l'indépendance de la France passe par l'indépendance de sa force de frappe. Et pour mettre au point cette force de frappe, il faut d'une part les essais nucléaires, d'autre part des essais de ce qui vont porter cette bombe. Alors ce sera les avions, les fameux Mirage 4, et puis ce sont les fusées. Et là aussi, pour les essais de fusées, c'est l'Algérie qui va être choisie. Alors, pour les fusées, ce sera la région d'Amaguir, et pour ce qui est de l'explosion dans l'atmosphère, c'est la bombe de... ce sont les premières expériences de Reagan. Donc, De Gaulle veut, parce qu'il a compris aussi, il sait que les expériences menées par la France peuvent se passer après qu'intervienne une indépendance de l'Algérie. C'est pour ça qu'au moment des accords d'Évian, vous avez des discussions âpres entre la volonté française d'envisager certes une indépendance de l'Algérie, mais de continuer à y faire un certain nombre d'expériences et dans le domaine nucléaire et dans le domaine des fusées. Et ces discussions qui ont été extrêmement difficiles ont peut-être, c'est ce que pensait en tout cas l'un des grands négociateurs algériens des accords d'Évian, Reda Malek, qui considérait que le Sahara avait sans doute prolongé la guerre d'Algérie de plusieurs mois entre trouver
un an de guerre supplémentaire
et c'est finalement il fallait bien trouver une solution et on a trouvé à la fois dans l'un des paragraphes des accords d'Évian et dans des clauses annexes, la possibilité pour la France, même après l'indépendance de 1962, de poursuivre des essais nucléaires encore pendant 5 ans. Et le premier, et bien sûr dans le domaine aussi des fusées, puisque le premier satellite artificiel français qui s'appelait, j'allais dire évidemment Astérix, a lieu alors que l'Algérie est largement indépendante depuis plusieurs années.
Un mois et demi après l'explosion de la première bombe atomique française, les techniciens se sont à nouveau retrouvés autour du général Ahiré. Dans son PC de Reagan, il devait assister à une nouvelle expérience nucléaire. Il s'agissait cette fois de l'explosion au sol d'un engin plus léger, première étape vers la construction d'armes atomiques tactiques. Il est 6h15, ce 1er avril.
Évidemment, c'est pas mis textuellement dans les accords d'Évian que la France est autorisée à poursuivre ses expériences nucléaires dans le Sahara d'une Algérie indépendante. C'est une clause qui précise que la France pourra continuer pendant un certain nombre, un laps de temps, pendant un certain nombre d'années, de bénéficier de terrains, de sites stratégiques, sans préciser dans cette rédaction-là, qu'il s'agit d'y faire telle ou telle expérience. Et effectivement, la France y restera les années prévues dans ces accords.
Et qu'en est-il pour le pétrole et même pour le gaz, sachant qu'il y a une vraie pression en France, hein, vous rappelez dans votre livre, Michel Pierre, cette pleine page de Paris Match de janvier 1958, en pleine guerre d'Algérie, où on pouvait lire « Le Sahara couvrira la moitié des besoins français en 1960 ».
Oui, alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, en 56, 58 et encore en 60, on pense que le pétrole algérien et pétrole du Sahara algérien est fondamental pour l'économie française. C'est plus tout à fait le cas au moment de l'indépendance en 1962, parce que vous avez une surproduction de pétrole à l'échelle internationale, et donc y compris pour l'économie française, ce pétrole algérien devient finalement moins fondamental qu'on ne l'a imaginé. Par contre, effectivement, comme je le disais, les expériences nucléaires, ça c'est pour De Gaulle, c'était beaucoup plus important. Donc c'était plus facile, en quelque sorte, de lâcher un certain nombre de choses, avec des accords passés normalement avec l'Algérie indépendante, sur le pétrole que de lâcher quoi que ce soit sur les essais qui devaient continuer à se dérouler en Algérie. c'est jamais très facile, un bilan. Donc il est, pour le Sahara algérien, indépendant en 1962. Pour les autres morceaux du Sahara contrôlés par la France, Mauritanie, Tchad, Niger, Soudan, enfin ce qui va devenir le Mali, c'est un petit peu antérieur, puisque c'est dès 1960. Disons que la présence française jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en particulier sur les populations locales, a certes amélioré des conditions sanitaires, sans doute aussi dans l'élevage, voire aussi dans la culture des oasis, mais j'ai l'impression que c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale qu'un certain nombre de progrès, pourrait-on dire, ont été faits. On sent bien qu'avec les années 1950, qu'avec la Quatrième République, avec même pour partie le plan de Constantine de Général de Gaulle à partir de 1958, où vous avez un certain nombre d'efforts dans les infrastructures, ne serait-ce que ça, mais les infrastructures qui étaient nécessaires aussi pour les essais dont on parlait précédemment. Donc, quand la France part en 1962, et puis quand elle quitte vraiment le Sahara 5 ans plus tard, vous avez quand même des terrains d'aviation, vous avez des routes, vous avez un certain nombre de constructions qui sont réelles. Vous avez pour partie, dans une partie de cet ensemble du Sahara, des améliorations dans le domaine de la santé et de l'agriculture. C'est toujours compliqué, l'économie a changé. En tout cas, on se rend compte que la France avait fini par s'installer dans une sorte d'autorité qui était plus ou moins acceptée, en particulier de ceux dont la France avait fait attention de s'attirer la collaboration, c'est-à-dire les groupes les plus nobles ou les possesseurs de terrain, voire d'esclaves où on a fermé les yeux pendant un certain temps. Donc finalement, cette présence française, elle c'est à part la grande révolte de 1916-1917, elle est beaucoup plus tolérée en quelque sorte. C'est une sorte de soumission plus ou moins acceptée sur des populations relativement peu nombreuses aussi dans une partie de ce Sahara.
Et tout aussi pauvre qu'au début du siècle.
On a l'impression, hein, je prends en particulier un témoignage que l'on connaît, qui était celui de Jean Mallory, qui ensuite se rendra plutôt célèbre par rapport à des espaces beaucoup plus froids que ceux du Sahara, qui est présent dans le Hogar 1947 et qui souligne encore la misère, voire des cas de famine, hein, que les rapports montrent encore à cette époque-là. Et donc, si on est sur la avant Première Guerre mondiale et immédiate après Seconde Guerre mondiale, on a quand même l'impression que les progrès, pourrait-on dire, sont assez minimes. Mais vraiment, un certain nombre quand même d'améliorations réelles qu'on ne peut pas contester dans plusieurs domaines, et je reviens sur celui de la santé, se passe dans les années suivantes. Dans les années 1950, là, on a quand même un certain nombre de choses qui se passent et qui font plus ou moins accepter cette présence française, mais qu'on ne peut pas non plus résumer à simplement des événements militaires comme ceux qui ont pu exister précédemment.
Le temps des indépendances, enfin, tous les pays vont être indépendants, en 56, la Tunisie, le Maroc, les deux protectorats de la France, en 1960, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, en 1962, l'Algérie. Ici, on terminait cet épisode en reprenant une citation d'André Malraux. C'était le 14 août 1960 à Bangui, devant la foule de la toute jeune République centrafricaine. André Malraux qui dit « Une ère s'achève avec ce soir qui tombe. Ce n'est pas un transfert d'attribution, mais un transfert de destin. Demain, on verra qu'un autre futur commence aussi pour le Sahara. À demain, Michel Pierre.
À demain.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Lolita Vive, bonjour.
Bonjour.
Votre dernier film, Poétique du cerveau, sorti en décembre au cinéma, est désormais disponible en DVD. Après avoir longtemps travaillé sur la langue hébraïque, notamment à travers une trilogie qu'on peut trouver d'ailleurs dans un très beau coffret DVD, dans ce film, c'est-à-dire Poétique du cerveau, vous interrogez la mémoire. Vous interrogez plutôt sur la mémoire à partir de quelques photographies issues de vos archives personnelles, des souvenirs que ces images réveillent en vous, et à partir de votre histoire personnelle, vous êtes allé interroger des scientifiques, des chercheurs en neurosciences, en psychanalystes ou encore en psycho, puisqu'il y a même une psycholinguiste dans votre film, et vous les avez questionnés sur la mémoire, comment fonctionnent dans notre cerveau les mécanismes de la mémoire. Alors c'est assez original parce que généralement quand on utilise ses données personnelles, c'est-à-dire sa vie intime, c'est pour la confronter plutôt à la fiction ou à la philosophie, aux sciences sociales pour aller très vite. Mais vous, votre choix est de privilégier la piste scientifique.
Dans ce film.
Oui.
Bon, parce qu'avant c'était des poètes, c'était des écrivains. Et là, mais en fait, c'est pas que la mémoire. Pour moi, c'est la mémoire, c'est la lecture, c'est le bilinguisme, c'est le même sujet que j'ai abordé dans le film précédent, sauf avec un autre angle de vue. Je me suis dit, on va voir ce qu'eux, ils disent.
Eux, ce sont les scientifiques.
Oui. Et mais même quand je suis allée voir Yadine Doudaï, qui est un grand spécialiste sur la mémoire, je suis allée avec un poème. Un poème en hébreu qui dit « Les passés et l'avenir, pas du présent, l'entre-deux ». C'est-à-dire le présent, il est l'entre-deux du passé et de l'avenir. Et avec ça, je suis allée le voir. Et ça lui a évoqué, il m'a expliqué des choses et il m'a dit, en effet, il m'a expliqué que le même circuit neuronal s'allume quand on se remémore quelque chose, donc du passé, et quand on anticipe, on imagine l'avenir. Donc il m'a dit que c'est le même circuit. Bon, je trouvais que c'est des choses qu'on imagine, c'est-à-dire on peut imaginer parce qu'en fait, quand on pense du cerveau comme étant la plasticité du cerveau, et comme dit un de mes protagonistes, qu'il dit que c'est jamais le même cerveau parce qu'il est tout le temps en mouvement, et on imagine que en fait, le passé, il n'existe pas en tant que tel, on le sort pas comme une image, et il est là dans le. On se remémorise, c'est une action. Et en fait, cette action, elle est, on s'imagine, on se reconstruit le passé. Donc en fait, c'est comme ça me semble normal, ça me semble logique, et que c'est la même chose qu'on reconstruit, on imagine le futur. Donc, vous voyez, c'est-à-dire c'est toujours une reconstruction, toujours. Mmh. Bon, ça, d'autres nous l'ont dit, mais lui, il l'a dit en disant, oui, c'est le même circuit qui s'allume. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne dit rien, mais on dit, il y a une association d'idées. Et que c'est un peu, je ne sais pas, moi, ça m'a beaucoup plu qu'il parle comme ça et que je pouvais venir vers lui avec un poème.
Alors, mais déjà, pourquoi ce choix des scientifiques? Est-ce que vous avez l'impression d'être plus à l'aise? Est-ce que vous pensez que les sciences sociales, ça reste quand même quelque chose de subjectif, que vous pouvez vous dévoiler, mais pas totalement, alors qu'avec les scientifiques, on a l'impression que peut-être, parce que vous n'êtes pas scientifique, vous leur faites entièrement confiance?
Pas du tout.
Ah bon?
Pas du tout, je ne leur fais pas confiance du tout. Et d'ailleurs, bon, j'en sais rien. Je les écoute exactement comme les autres.
Donc c'est un film d'expérimentation.
Pour moi, c'est des récits presque comme des mythes. Ils me racontent des choses, ils disent ça. Je soupçonne que dans quelques années, ils vont me dire que l'interprétation qu'ils ont donnée aujourd'hui, ce n'est pas la même. Et c'est pour moi comme... Comme les textes des autres, comme les textes de mon film annoncent, quand je vais vers les textes mythiques, les textes de religion, me dit oui, on interprète comme ça, l'autre interprète. Il y a 7 femmes, chacune interprète différemment. Moi, je crois que ce qu'ils me disent aujourd'hui, c'est pas forcément la même chose. Non, c'est pour ouvrir pour moi l'imaginaire, en fait, parce que et je répète, c'est des choses que c'était, par exemple, l'histoire de la lecture, je trouve extraordinaire ce que Laurent Cohen raconte sur la lecture. C'est que vraiment les mêmes, c'est-à-dire il y a un endroit qui n'existe pas génétiquement, parce que évidemment la lecture n'existe pas depuis longtemps, et c'est pas important à quel âge on va apprendre à lire. Il y aura le même endroit qu'une sorte de boîte aux lettres qui va s'ouvrir pour reconnaître les lettres. Donc en fait, je tourne encore autour de la lettre, comme dans mes films précédents. Même quand je pense circoncision, qui veut dire en hébreu le mot circoncision, c'est le même mot.
Vous avez réalisé tout un film sur la circoncision, ouais.
Oui, mais c'est pour, en fait, je me suis un peu inspirée de Derrida, et qui rappelle, et que je sais que les mots en hébreu, c'est le même mot que circoncision, hein. Et dans la Bible, c'est marqué, et que la circoncision, c'est le signe de l'alliance, et en hébreu, le mot signe, ça veut dire hôte, ça veut dire signe, ça veut dire la lettre.
Oui, mais là, donc, on est dans
l'interprétation. On est dans la lettre. Hein,
oui, on est dans la lettre, on est dans l'interprétation, on est dans la philosophie, on est aussi dans tout ce qui est science sociale. Mais là, dans ce film, dans Poétique du cerveau, c'est vous-même et votre intimité que vous mettez en scène, Nourita Vive.
C'est un va-et-vient. Je crois que ce qui est important, vraiment, c'est pas... C'est mon histoire personnelle.
Ce sont vos souvenirs, ce sont vos photos, c'est vous à l'écran qu'on voit face à ces scientifiques. Il y a une grande scène d'ailleurs dans ce film qui résume très bien votre démarche. On vous voit passer un IRM et après on voit l'image de votre cerveau en coupe. Et donc c'est bien ça le sujet de votre film. C'est oui. Comment votre cerveau fonctionne.
Bon, et on va... Je suis allée... mettre mon cerveau dans la machine parce que j'ai une sorte de symptôme étrange que j'ai eu après que je fais des films d'une langue à l'autre. J'ai un symptôme sur la langue, hein, organique, hein, la langue. Donc, en fait, toute odeur devient une sorte de picotement sur ma langue. Donc, en français, langue et langue, on est déjà dans un jeu de mots. Mmh. En hébreu, c'est les mêmes. La chaune, hein. Mmh. Il y en a, je crois que si c'était d'autres langues, j'aurais pas ces symptômes. Je suis persuadée. Donc, on est déjà entre organique, les corps, l'esprit, j'aime bien jouer. On est encore dans la lettre, vous voyez, encore dans la langue. N'importe quel film, je tourne autour de la langue. Et là, j'ai mis mon cerveau comme ça, et tout ce qu'on a cherché, on a trouvé, rien, évidemment, je savais à l'avance qu'ils vont rien me dire sur les symptômes, on a trouvé l'endroit, la représentation de mouvement de la langue dans mon cerveau. C'est tout ce qu'on a pu trouver. Et ça, c'est déjà avec beaucoup de difficultés, parce qu'on a fait 3 tests pour trouver ça. Vous voyez, donc, j'ai tourné autour de la lettre, même mon symptôme, qui s'est quoi en moi, c'est mon inconscient qui a inventé ces symptômes, il est encore autour de la langue et la lettre.
Est-ce que l'inconscient a une place dans notre cerveau? Est-ce que quand on passe d'une langue à l'autre, c'est une fois de plus le cerveau qui travaille à sa manière? Comment tout ce mécanisme fonctionne? C'est des questions que vous posez à plusieurs scientifiques et on a l'impression que avec leurs réponses, ce n'est pas la vérité que vous voulez atteindre, Nourita Vive, mais c'est juste une mosaïque de pistes qui s'ouvrent.
Exactement. C'est la vérité d'aujourd'hui. C'est que eux ont trouvé aujourd'hui. C'est qu'ils savent aujourd'hui. Ils sont encore loin d'une vue d'ensemble de ce que c'est le cerveau, hein.
Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous dites tant mieux?
Bribes. Mais je sais, j'en ai travaillé en bribes. J'ai essayé de faire ces jeux en bribes. Eux, ils me racontent des bribes vraiment intéressantes, que moi, j'ai trouvé vraiment formidables. Et c'est des bribes qui se répondent. Et moi, je fonctionnais en bribes. Comme vous dites, en mosaïque. Mais c'est, je ne sais pas, c'est, je crois, Didier Huberman qui m'a dit, ah, c'est formidable. Et vraiment d'aller comme ça de générique au singulier, du singulier au générique. C'est-à-dire qu'en fait, je touche la même... En fait, c'est par association
parler d'un passage de votre vie intime à l'universel.
Si on peut le dire, mais c'est ça que... C'est aller-retour qui m'a intéressé. C'est dire, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Je vous demande où vous en êtes aujourd'hui. Hein, et ils disent, mais j'ai aussi demandé comment vous êtes arrivé à faire ces métiers, c'est-à-dire où est votre désir à vous. Donc en fait,
et qu'est-ce que vous recherchez? C'est très intéressant, même.
Et de leur enfance. Il y en a quand même plusieurs qui parlent de leur enfance.
Et comment vous les avez choisis? Comment votre cerveau a fait ce casting?
J'ai beaucoup beaucoup travaillé. J'ai travaillé 2 ans à chercher ceux qui s'occupent de choses qui m'intéressent. C'est-à-dire que c'est pas, je vais aller voir, je veux dire, c'est telle chose qui m'intéresse, qui est la personne. Et après, vous savez, on trouve pas des dizaines et des dizaines, sur le même sujet.
Est-ce que c'est parti d'une peur? Est-ce que, parce qu'à un certain moment, effectivement, quand on commence à rentrer dans votre film, on se laisse, bercer. Il faut le dire. C'est vrai que ce sont des récits, autant d'hypothèses, de pistes ouvertes par les scientifiques qui sont d'ailleurs très, très différents. Est-ce que c'est parti d'une peur de perdre la mémoire d'Alzheimer? Est-ce que c'est, par exemple, ou au contraire, d'une question de dire, est-ce que je n'ai pas déjà oublié des faits importants qui pourrait être constitutif de ma personnalité?
Et bon, je ne sais pas si c'est la peur d'Alzheimer, mais vous avez remarqué que dans les films, je ne parle pas du tout de rien qui concerne la médecine, l'application, c'est la psychiatrie. Et c'est pour ça que je l'appelle poétique de cerveau, C'est-à-dire que j'ai fini le film Annonce, fini par Barbara Cassin qui parle des poètes. Et je recommence le prochain avec un poème, Le film commence avec un poème. Donc
Donc le point de départ, c'est pas une peur de perdre la mémoire?
Pas consciemment. Qui sait, Qui sait, peut-être quelque part, mais. J'attends pas la réponse. Je sais où on est la médecine aujourd'hui. On est, mais c'est pas ça. D'ailleurs, je traite pas du tout ce sujet dans le film, mais pas du tout avec exprès. Il y a rien qui concerne, mais vraiment rien qui concerne ça. Et je dois quand même. Je me rappelle quand vous demandez cette question. Il y a dans mon film D'une langue à l'autre, Appelfeld qui dit qu'il sait pas si un jour. Il dit pas comme ça, mais un jour, il sait pas ce qui peut lui arriver. Et si jamais il perd la mémoire, dans quelle langue? Parce qu'il a des problèmes de la langue. Parce que la langue qu'il parle, la langue de son enfance, il l'a oubliée, Il la connaît pas. Donc, il y a comme une peur. Quelle langue va venir le jour où? Donc, c'est déjà là, mais par un poète, par un écrivain.
Merci en tout cas d'être passé ce matin, Laurite Aviv, Poétique du cerveau, au cinéma à Paris, si vous êtes à Paris, sinon disponible en DVD. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, une émission préparée avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, réalisée par Thomas Duterre, avec aujourd'hui à la technique Pierre Mine. On se retrouve demain pour la suite de notre série consacrée au Sahara, avec l'historien Michel Pierre, et en deuxième partie, je serai avec le romancier Alain Blottière. Bonne matinée, à demain.